Salut, c'est Nicolas Gauvry pour Scepticisme Scientifique, le balado de la science et de la raison. Alors aujourd'hui on va parler de deux articles scientifiques entre guillemets. Je vais préciser pourquoi je mets des guillemets, mais c'est des articles tous les deux parus très récemment dans des revues scientifiques, à comité de lecture a priori. Et qui tous les deux comportent des erreurs, peut-être des erreurs dans un cas et de la manipulation et du mensonge dans l'autre, je ne sais pas. En tout cas, tous les deux qui sont tout à fait critiquables, on va le voir. Alors, le deuxième dont on parlera, mais je vous l'annonce tout de suite, c'est celui qui correspond à un billet de blog que j'ai fait récemment. Et c'est un article de Grimes paru dans PLOS ONE, qui est une revue en ligne. Assez bonne revue en ligne parce que c'était une des premières, peut-être elle est relativement cotée, disons que c'est considéré comme une revue correcte en tout cas dans mon domaine en psychologie, publiée dans PLOS ONE, c'est pas la honte, mais c'est pas non plus une revue prestigieuse, hein. On est bien d'accord, c'est pas une revue prestigieuse, mais bon, elle a quand même une image de sérieux. Et donc on va parler de cet article paru dans PLOS ONE tout à l'heure et qui entend démontrer que les complots impliquant de nombreuses personnes en fait ne peuvent pas rester cachés très longtemps au moyen d'un modèle mathématique qui, on va le voir, contient des erreurs, des approximations et toutes sortes de choses qui font qu'en réalité l'article n'est pas du tout convaincant. Mais avant ça, on va parler d'un tout autre sujet dans une revue dont je n'avais jamais entendu parler, mais c'est pas mon domaine pour le coup, parce qu'il s'agit pas de psychologie, mais d'environnement, de pathologie animale, je sais pas. Et donc voilà, une revue dont je n'avais jamais entendu parler, où a publié l'inénarrable Seralini pour nous démontrer une fois encore que les OGM c'est le mal absolu. Alors je suis en train en même temps, pendant que je vous parle, je suis en train de chercher le nom de cette revue, et voilà, c'est le Scholarly Journal of Agricultural Science. Voilà, donc une revue en ligne également. Je suppose qu'il faut, comme pour PLOS ONE, payer pour être publié là-dedans, et je suppose que comme PLOS ONE, et même peut-être plus, c'est une revue qui a tendance à accepter très facilement les articles. Voilà, moi je suis très favorable aux revues ouvertes en ligne, parce que ça permet d'avoir une science ouverte, tout le monde peut accéder aux articles. L'inconvénient, c'est qu'en général, les auteurs payent pour être publiés, et de ce fait, la revue a intérêt financièrement, et comme c'est des entreprises privées qui font ça toujours, c'est problématique, a intérêt à publier un maximum d'articles. Et parfois, ça devient un peu délirant. Je crois que c'est la revue Frontiers, qui est en fait un ensemble de revues, on pourrait dire, parce qu'il y a des Frontiers in Psychology, donc il y en a en psycho, il y en a en physique, il y en a dans différentes disciplines. Et cette revue a publié, si je me souviens bien, plusieurs milliers, je crois que c'était presque 10 000, de l'ordre de 10 000 articles en un an. Donc ça devient un peu délirant, même si c'est beaucoup moins, parce que je peux me tromper dans les chiffres. En tout cas, c'était considérable, énorme et absolument impossible à lire pour quiconque. Voilà, donc on va d'abord parler de cette étude, entre guillemets, c'est pas une étude, c'est même pas une observation, mais on va juste s'amuser 5 minutes à parler de ça, de Seralini. Alors bien sûr, nous on prend un peu ça à la rigolade, ces affaires Seralini qui s'enchaînent, même si dans ce cas, ça semble avoir fait beaucoup moins de bruit que la dernière fois. Mais en fait, c'est pas si drôle que ça, parce que ça convainc énormément de gens. Et on peut quand même se dire que les gens aient des idées fausses, c'est pas en soi une excellente idée. Et c'est probablement ce qui se passe ici. Alors Seralini a fait un peu comme la dernière fois, en tout cas on va dire, quand il nous avait montré des rats avec des tumeurs extraordinaires sur ses photos pour nous convaincre qu'un OGM, un maïs OGM était dangereux dans une étude donc, qui a été beaucoup critiquée. Là il s'agit de l'étude d'un troupeau de vaches qui a été décimé, et d'après Seralini, l'explication évidemment, si ce troupeau de vaches a été décimé, eh bien c'est parce qu'ils ont consommé l'horrible maïs OGM qui vient de l'enfer et qui évidemment décime les vaches, mais qui décime les vaches uniquement dans une ferme en Allemagne pour une raison tout à fait étrange et inconnu jusqu'à présent. En tout cas, Serraligny a procédé comme la dernière fois, c'est-à-dire que après, enfin cette fois-ci c'est peut-être après, mais ou pendant la publication de son article, il a organisé une sorte de tapage médiatique pour qu'on parle un peu de son article, et ça a partiellement marché, beaucoup moins que la dernière fois, parce que peut-être les journalistes sont-ils un peu échaudés maintenant, mais le journal L'Humanité a titré de manière tout à fait absurde « Un maïs OGM reconnu toxique pour l'alimentation animale », alors que même l'article lui-même ne dit rien d'aussi tranché. On va le voir. Alors, pour donner un peu le cadre, disons, de cette étude, voilà, c'est un fermier allemand qui s'appelle Gottfried Glockner, qui a, il y a quelques années, perdu une grande partie de son troupeau de vaches. Et comme les vaches avaient consommé un maïs OGM, il a porté plainte contre le grand Satan, mais c'était pas Monsanto cette fois, c'est un autre grand Satan dont j'ai oublié le nom, qui produisait ce maïs, et donc il a porté plainte parce que évidemment c'était forcément de la faute du maïs, à cause du maïs que ces vaches étaient décédées. Donc il y a eu deux procès, et pendant ces deux procès, donc il y a eu une enquête vétérinaire, et l'enquête a conclu que si les vaches étaient mortes, c'était de maladie, et que la maladie avait pu se développer parce que les conditions dans lesquelles le grain était stocké n'était pas optimale. Et même s'il n'y avait pas eu de défaut de la part du fermier, de toute manière, c'était une question donc bactériologique et qui n'a rien à voir a priori avec les OGM. Donc il y a eu deux procès qui ont conclu à chaque fois de la même manière, que les vaches sont mortes à la suite d'une épidémie et que ça n'a rien à voir avec le type de maïs qu'elles mangeaient depuis 4 ans, ce qui d'ailleurs n'étonnera personne, puisque si la moitié du troupeau ou une grande partie du troupeau est décédée très rapidement à cause d'un maïs OGM qui se vend dans le monde entier, normalement on devrait percevoir comme un léger fléchissement du nombre de vaches un peu ailleurs que chez un fermier en particulier en Allemagne, un fermier qui fait partie du CRIGEN l'association donc de Serraligny. Et ce fermier d'ailleurs qui a co-signé, c'est très amusant, qui a co-signé cet article dans une revue scientifique. Donc on a un article dans une revue scientifique co-signé par un fermier qui n'est pas chercheur, mais bon, il a pu participer, d'accord. Et Serraligny, il y a deux auteurs, hein. Gottfried Glockner qui est le premier auteur, c'est-à-dire que selon les conventions, c'est celui qui a fait le plus gros du boulot, et puis Serraligny. Alors voilà déjà de quoi nous intriguer, disons. Parce que c'est une histoire assez anecdotique qui concerne qu'un seul fermier, et après coup donc on va écrire une histoire qui sera publiée dans une revue scientifique, mais voilà, vous voyez que c'est une observation, il n'y a pas de groupe contrôle, il n'y a pas d'expérience, il n'y a pas d'épidémiologie, il n'y a aucune comparaison avec les autres fermiers qui ont nourri ou pas leurs vaches avec ce maïs là. Il y a déjà eu une enquête qui a conclu que le maïs OGM n'était pour rien dans la disparition des vaches, mais néanmoins, Serraligny et le fermier, qui donc avait porté plainte, reviennent à la charge en disant « si, c'est à cause des OGM si les vaches sont mortes ». Alors on va regarder un peu à l'intérieur de l'article, et là, vraiment, on est stupéfait. Vous pouvez aller le chercher, l'article. Je vous conseille de passer par le blog de Yann Kindo. Donc ça, c'est facile à trouver en tapant Yann Kindo sur Mediapart. Le titre de son billet, c'est « Oh la vache, Serraligny a encore publié ». Il est très, très amusant. Je me suis vraiment bien plu à le lire. Et dedans, vous avez tous les liens pour retrouver l'article donc, qui est en accès libre. Donc, tout va très bien. Voilà, on va évidemment pas rentrer dans les détails, mais l'article raconte l'histoire donc, de ces vaches qui subitement meurent et que les auteurs, évidemment, et les auteurs expliquent, pardon, évidemment que ces morts sont dues à la consommation d'OGM. Alors le tout début, la première phrase de l'introduction de l'article, c'est très amusant, c'est, je vous la traduis, « Cette étude n'est pas envisagée comme une étude scientifique, comme une expérience scientifique. Il s'agit d'une observation détaillée, etc. Voilà. » Alors évidemment, ils disent que leur observation est détaillée, mais ça commence par ce n'est pas une étude, une expérience en tout cas scientifique, ce qui est voilà, tout à fait étonnant dans un article scientifique, mais voilà, c'est ça la première phrase. Ensuite, on a toute la description. Donc, je vous passe la description parce que sur les faits, je crois que tout le monde, personne n'a remis ça en cause. C'est-à-dire qu'effectivement, les vaches ont été nourries avec des OGM et effectivement, beaucoup sont mortes après. Et probablement du botulisme d'après les enquêtes qui ont été menées. Mais comme évidemment la mort suit, n'est-ce pas, c'est un post-hoc, ergo propter hoc, puisque la mort suit l'ingestion d'OGM et que Seralini a décidé que les OGM donnaient la mort, et bien forcément la mort est causée par les OGM. Alors j'avance un peu dans l'article et je vois page 6, hein, parce qu'on ne va évidemment pas détailler du tout, mais page 6, on a les magnifiques photos donc, qui ont fait peut-être la touche Seralini dans ses articles scientifiques, de magnifiques photos absolument atroces de vaches. Alors d'un côté, on a une vache qui a l'air complètement morte, effondrée, et de l'autre, une plaie béante. Enfin, c'est vraiment absolument atroce. Et c'est une technique de communication, ça, c'est pas du tout une technique... d'illustration scientifique. Seralini, comme il avait fait avec les rats dont on voyait les tumeurs et dont on ne savait même pas a priori s'il était du groupe contrôle ou pas, eh bien veut jouer sur l'émotion pour qu'on se dise quelle horreur, arrêtons tout de suite les OGM. Et voilà. Mais en réalité, évidemment, ce qu'ont conclu les enquêtes, c'est que ces maladies qui ont bien existé, malheureusement, ne sont pas dues aux OGM. Alors je saute complètement à la fin de l'article, oui, on ne va pas du tout détailler. Hein. Je vous renvoie vers le billet de blog de Yann Kindo qui est un peu plus détaillé que ce que je vous ai raconté. Mais par contre, je vais m'attarder un petit peu plus sur les remerciements, en fait. Remerciements à la fin de l'article, donc on a cette partie-là qui est assez courante dans les articles où on dit qui nous a aidés, etc. Et où on déclare aussi ses conflits d'intérêts. Et donc ça commence comme ça, le CRIGEN reconnaît avoir été aidé ou remercie l'aide de la Léa Nature Foundation et de l'Institut Alibio. Autrement dit, ils ont été aidés, alors si j'ai bien compris, en fait ce sont deux entreprises qui travaillent dans le bio et pour une alimentation plus naturelle, sans OGM, etc., qui ont aidé donc à ce que l'étude se réalise en prêtant du personnel ou je ne sais quoi d'autre, hein, du matériel. Et ensuite, la phrase d'après, c'est « Les auteurs déclarent n'avoir aucun conflit d'intérêt ». Et donc, je vous rappelle, aucun conflit d'intérêt, hein, dans une étude qui est financée par des entreprises opposées aux OGM, qui concluent que les OGM sont dangereux, et dont le premier auteur est un fermier qui a porté plainte contre l'OGM dont il entend démontrer la dangerosité en article. Alors ça, si ça c'est pas un conflit d'intérêt, je me demande à quel niveau il faut aller pour arriver à un conflit d'intérêt. Donc il y a manifestement un énorme conflit d'intérêt, et dans les remerciements on voit écrit exactement l'inverse, qui est manifestement faux. Ensuite on apprend dans la suite que le premier auteur, donc le fermier, non, a collecté les données, s'occupait de la ferme et a fait les observations. Autrement dit, toutes les données qui ont été utilisées n'ont pas été observées par quelqu'un de l'extérieur, mais ont été observées par ce même fermier, rapportées par ce même fermier qui a porté plainte contre la boîte qui fabrique l'OGM et dont on conclut dans cet article qu'il est dangereux. Voilà, alors vous jugerez s'il y a effectivement peu ou beaucoup de conflits d'intérêts. Et alors c'est quand même un peu croustillant de lire ça chez Seralini, qui est un obsédé du conflit d'intérêts et qui passe son temps à expliquer que toutes les études qui concluent que les OGM ne sont pas dangereux sont financées en sous-main ou carrément ouvertement par les gens qui fabriquent ces OGM. Ce qui est partiellement vrai, mais quand c'est vrai, normalement, disons, en tout cas chez les chercheurs qui suivent ce qu'ils doivent faire, eh bien c'est indiqué, on indique les conflits d'intérêts, on dit cette étude a été financée par Monsanto ou Syner, je ne sais pas quoi, ce qui évidemment diminue considérablement la force de conviction de l'étude, c'est normal, c'est tout à fait rationnel, mais c'est bien de l'indiquer. Voilà. Ici, on a quelque chose de complètement hallucinant, ubuesque, où on nous explique « l'auteur a porté plainte contre un OGM qu'il dénonce ici, nous avons été financés par des groupes anti-OGM et nous n'avons aucun conflit d'intérêt ». Voilà, je ne vais pas vous en dire plus sur cet article désopilant. Si vous voulez en savoir plus, allez lire le biais d'Yankindo ou directement l'article. C'est assez rigolo. On va maintenant passer à un deuxième exemple d'article critiquable, disons, celui paru dans PLOS ONE qui s'appelle « Sur la viabilité des théories du complot ou des croyances conspirationnistes », publié, dont l'auteur est David Robert Grimes, donc paru dans la revue PLOS ONE, qui est une revue en ligne. Ce que l'auteur a voulu faire ici, c'est construire un modèle mathématique pour démontrer que si un complot implique beaucoup de monde, donc quelques milliers de personnes, alors nécessairement, ou du moins avec une très grande probabilité, il sera éventé assez rapidement parce qu'il y aura des fuites internes, tout simplement. Alors c'est important, ça me semble important, disons, de dénoncer cet article. On va voir pourquoi dans les détails juste après, mais pour une raison liée au rationalisme. D'abord, c'est un article qui nous fait plaisir, on a bien envie qu'effectivement on puisse utiliser un argument mathématique, une démonstration, pour dire non, vos théories du complot, là, elles tiennent pas debout, parce qu'on peut démontrer mathématiquement que si vraiment le 11 septembre c'était organisé par la CIA ou je ne sais quoi, ben, il faudrait des centaines de personnes impliquées là-dedans, et on peut démontrer mathématiquement que l'une d'elles aurait forcément, ou presque forcément, éventer l'affaire au bout d'un an ou deux. Donc ce serait vraiment très bien d'avoir ça, et on est content de lire un tel article. Or justement, quelque chose qui est important quand on est rationaliste, c'est d'être capable, et c'est ça qui fait la différence entre les rationalistes et les autres certainement, d'être capable de critiquer des choses qui vont dans notre sens et dont les conclusions nous plaisent. Voilà, c'est pas agréable, mais c'est important de le faire. Et alors comme j'ai reçu... après avoir dénoncé cet article, j'ai reçu des commentaires très réjouis de gens qui me renvoient vers Reopen. Et donc je signale ici justement une grosse différence entre les réactions des rationalistes. Ça m'a fait beaucoup plaisir, hein, bien, vraiment bien plaisir. Et la réaction qu'avait eu Reopen à l'époque, ça fait un moment. Donc je vais vous rappeler un petit peu les faits. Il y a quelques années, donc, Reopen avait fait faire un sondage par des étudiants en commerce, un sondage pour savoir si les Français croyaient plus ou moins aux théories du complot sur le 11 septembre. Je simplifie un peu, c'était pas tout à fait ça. Et leur sondage était extrêmement mal fait. C'est-à-dire que tous les biais qu'on peut mettre dans un sondage, ils les avaient mis. Par exemple, pour donner un des nombreux biais qu'il y avait, c'est les gens qui étudient les sondages ont montré ça, que la première option qui est donnée est toujours favorisé. C'est-à-dire que si on veut que les gens répondent non, on met « êtes-vous d'accord ?» non d'abord, oui ensuite, on aura plus de non que si on met dans l'autre sens. Et là, pour chaque question, sans exception, la première réponse était celle qui allait dans le sens de Reopen. Et il y avait comme ça toute une série d'erreurs, de techniques de sondage, parfois très grossières. Par exemple, le fait de mettre plus d'options qui vont dans le sens qu'on veut que dans l'autre sens. Par exemple, si vous voulez une réponse oui, vous pouvez mettre oui, non, mais vous pouvez mettre aussi, et c'est ce qu'ont fait les étudiants en commerce, vous pouvez mettre tout à fait, plutôt oui, je ne sais pas, non. Ça fait deux options pour le oui et une seule pour le non. Là encore, vous augmentez artificiellement le nombre de oui. J'avais eu quelques échanges de mails avec les gens de Reopen qui avaient l'air de comprendre ça. Je les avais renvoyés vers des manuels qui expliquaient les erreurs à ne pas commettre, et puis c'était évident qu'ils les commettaient à peu près toutes. Et malgré ça, au lieu de changer d'avis, au lieu de se dire cet argument-là n'était pas bon, on le retire et puis on va mettre en avant d'autres choses, au lieu de ça, ils ont remis le sondage en première page, en ajoutant ensuite des articles expliquant que j'y connaissais rien, sauf que c'est pas moi qui ai inventé ces histoires de oui-non. Moi, j'ai pas fait d'études sur ces questions de sondage pour savoir comment les gens répondent, mais des gens ont fait des études depuis un siècle et ont conclu que tout ce qu'il ne fallait pas faire, eh bien, c'est exactement tout ce qu'a fait Reopen. Et donc, eux n'ont pas changé d'avis. Devant les preuves de leurs erreurs, non pas évidemment, on prouve pas qu'ils ont tort, on prouve simplement que leur sondage ne prouve rien du tout parce qu'il est mal fait, et bien devant ces preuves, leur réaction a été d'ignorer les preuves, qui étaient pourtant éclatantes, et de renforcer leur conviction initiale. Voilà, j'avais peur honnêtement, quand j'ai dit que dans l'article de Grimes, il y avait des erreurs mathématiques et qu'on ne pouvait pas s'appuyer là-dessus du tout, que c'était un très mauvais argument, j'avais peur d'avoir ce genre de réaction chez les rationalistes, et je ne l'ai pas du tout observé, c'est-à-dire que ce soit sur Facebook ou sur d'autres sites comme Conspiracy Watch, par exemple. J'ai au contraire la réaction qui m'a vraiment, vraiment fait plaisir, parce que c'est ça qu'il faut faire, de dire « Ah non, là, on s'est trompé, ça nous faisait bien plaisir, mais non, c'est n'importe quoi. En fait, la preuve ne vaut rien. » Voilà, pour finir cette introduction un peu longuette sur l'article de Grimes, je veux dire aussi que la piètre qualité de l'article de Grimes prouve que sa preuve n'en est pas une, ce qu'il appelle une preuve n'est pas une preuve de quoi que ce soit, mais ça prouve pas que l'argument en soi, qui était de dire simplement s'il y a beaucoup de monde dans un complot, alors ça finit très vite par être éventé, peut-être que cet argument est juste, seulement pour l'instant on n'a aucune preuve, et donc on ne peut pas affirmer que c'est juste. Voilà, nous on pense intuitivement que ça l'est, mais c'est pas tout à fait sûr, il faudrait quand même plus d'éléments. Et puis je vous l'avais dit déjà tout à l'heure, mais c'est donc un deuxième point que je voulais aborder, c'est que cette histoire donc de complot qui s'évente forcément, c'est quelque chose en fait qui est régulièrement utilisé, un argument qu'on renvoie très souvent aux croyants des théories du complot, à ceux qui défendent les théories du complot, ce qu'on appelle comme ça. Et donc, ça aurait été bien pour nous d'avoir la preuve que c'est vrai, on aurait été particulièrement contents à cause de ça. Maintenant, si je reviens à l'idée générale qui est de un complot impliquant beaucoup de personnes ne peut pas rester caché longtemps, parce qu'il y a des gens qui vont finir par parler. A priori, il y a deux manières de le démontrer. La première manière, ce serait une manière expérimentale. Il faudrait convaincre des gens d'essayer de faire des complots à grande échelle, et puis voir si ça s'évente ou pas. C'est extrêmement compliqué, vous imaginez bien, et je ne pense pas que ça se fera un jour. D'abord parce que si on veut faire ça avec des centaines de personnes à la fois, ça fait énormément de monde à trouver. Mais ensuite et surtout parce qu'il faut que les gens soient motivés, évidemment, à vraiment essayer de cacher le complot pour voir si ça marche, si on peut les cacher ou pas. Vous doutez bien que si on dit c'est pour une expérience et pour voir si ça s'évente ou pas, les gens seront beaucoup moins attentifs que si c'est un vrai complot. Donc il faudrait faire croire aux gens qu'il y a un vrai complot, aux gens de l'intérieur, et qu'il ne faut pas qu'ils parlent, etc. Bref, c'est quasiment impossible. Je doute qu'on verra ça un jour. Et la deuxième manière de faire, c'était donc la manière mathématique. C'est-à-dire d'arriver à construire un modèle raisonnable qui ne soit pas a priori, ça c'est très important, pour que la preuve soit convaincante. Il faut faire un modèle raisonnable, mais un modèle c'est toujours une simplification, donc il faut construire un modèle en gardant constamment à l'esprit que parmi les différentes options, quand on doit faire des choix, eh bien on va toujours choisir celle qui est la plus favorable aux théoriciens du complot, si on veut. Voilà, parce que sinon, évidemment, on pourra dire que c'est le modèle qui fait que vous trouvez ce que vous trouvez. Donc il faudrait construire un modèle, et c'était l'idée de Grimes, je pense, construire un modèle qui soit réaliste, qui soit a priori plutôt favorable aux croyants des théories du complot, et qui, malgré ça, arrive à la conclusion qu'un complot à grande échelle, ça ne peut pas rester caché. C'était, je pense, l'idée de Grimes, et ça a complètement échoué, bien qu'il ait réussi à publier son article. Voilà, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, bien sûr, mais simplement, je voudrais vous donner les grandes lignes un peu du modèle proposé par Grimes, des modèles, et puis vous montrer pourquoi ça ne fonctionne pas, pourquoi il y a des erreurs, et pourquoi en fait ce n'est pas du tout convaincant, et ça ne prouve absolument pas ce qu'il faut. Donc l'idée de départ de Grimes, c'est de dire un complot, il risque fort d'être éventé s'il y a beaucoup de monde impliqué, parce qu'au cours d'une année, chaque personne qui a participé au complot a une certaine probabilité, très faible a priori, mais a une certaine probabilité de dévoiler le complot, c'est-à-dire de révéler au public ce qui s'est réellement passé. Donc on imagine, si le 11 septembre avait vraiment été organisé par la CIA, bien, il y a plein de gens à la CIA qui ont participé et qui, chaque année, ont une petite probabilité d'écrire à des journalistes, de mettre quelque chose sur Internet, et donc de dévoiler le pot aux roses. Donc voilà, on a cette probabilité qu'il appelle petit p, on va appeler petit p ici jusqu'à la fin, qui concerne chaque personne pour chaque année. Et donc vous imaginez évidemment que p est très faible, c'est-à-dire il y a très peu de chances pour une personne donnée et une année donnée qu'elle révèle le complot, surtout s'il y a des menaces de mort, surtout si c'est quelque chose de très important. Mais ce qu'il y a, c'est que quand il y a beaucoup de monde, des centaines, voire des milliers de personnes impliquées, eh bien, toutes ces probabilités, ça se cumule et puis ça finit par faire quelque chose de pas négligeable. Et surtout, quand on regarde au fil du temps ce qui se passe, là encore, ça se cumule. C'est-à-dire que si même 1000 personnes impliquées ont assez peu de chances de dévoiler ce qui s'est passé la première année, peut-être qu'ils vont le faire la deuxième, ou la troisième, ou la quatrième année, etc. Donc à partir de cette probabilité très faible P, on peut construire un modèle qui permet de calculer pour chaque année. Et donc si vous allez regarder l'article, parce qu'il est disponible aussi en ligne pour tous, aujourd'hui on est vraiment dans l'open access, hein, c'est formidable. Il y a cette table 1, figure 1, qui représente, donc année après année, la probabilité que le complot, donc dans le modèle, soit éventé. Alors, le problème de l'auteur, là, de Grimes, c'est qu'il n'est absolument pas précis sur ce qu'il appelle probabilité. C'est-à-dire, il dit probabilité d'une fuite en fonction du temps, mais sans préciser s'il veut dire à un moment du temps donné ou depuis le début. Vu les formules mathématiques, c'est forcément depuis le début. C'est-à-dire que ce qu'il est censé calculer et on va le voir, il s'est trompé dans sa figure 1. Ce qu'il est censé calculer, c'est pour chaque année, par exemple. Donc ici, je ne sais pas, sur la figure, vous avez vers la fin, vous avez 60 ans, par exemple. Alors c'est censé représenter, au bout de 60 ans, la probabilité qu'en 60 ans, il y ait eu au moins une fuite après un complot en fonction du nombre de personnes impliquées. Voilà, alors je vais revenir tout à l'heure sur cette figure, mais si vous l'avez sous les yeux, vous pouvez voir qu'il y a trois courbes, une bleue qui est correcte et deux autres qui sont fausses. J'en reparle très très bientôt. Alors quel est le problème de ce modèle si on le prend le plus basique possible ? Le plus basique possible, ça consiste à dire il y a un certain nombre de personnes impliquées, par exemple 1000. Elles ont une certaine probabilité de parler chaque année. C'est toujours la même probabilité, c'est-à-dire on n'a pas plus de chances de parler au bout de 20 ans que juste après le complot. Bon, ça c'est discutable. Je ne vais pas en parler, mais c'est déjà ça, c'est discutable. Mais il y a une autre hypothèse qui est que le nombre de personnes impliquées est constant. Ça veut dire qu'on ne tue pas les témoins, ça veut dire qu'il n'y a pas de décès naturel non plus chez les témoins, etc., etc. Bon, alors ça nous fait un modèle. Le problème de ce modèle, c'est que de la manière dont il est construit, vous voyez qu'il n'est pas très réaliste parce qu'évidemment, il y a de moins en moins de personnes impliquées dans le complot. Si on imagine qu'un complot peut rester indéfiniment caché, on peut imaginer qu'il y a eu des complots dans la Grèce antique ou je ne sais quoi, dont on ne saura jamais rien. Et si on ne saura jamais rien, c'est parce que ça a tenu assez longtemps, et assez longtemps pour qu'il n'y ait plus une seule personne au courant du complot vivante. Voilà. Donc dire que ça ne varie pas au cours du temps, c'est un peu étrange. Mais bon, si on fait cette hypothèse, mathématiquement, il est sûr à 100% que tous les complots sont dévoilés un jour. Ça, c'est juste mathématique, c'est pas très compliqué, hein, mais si vous avez... En gros, ça revient à dire, chaque année, il y a toujours la même probabilité d'avoir une fuite. Et donc, vous imaginez, vous lancez un dé, par exemple, ici, ça tombe sur 1, ça veut dire qu'il y a une suite. Et donc, vous lancez, pour chaque année, vous lancez le dé, ça finira forcément par faire 1 un jour. Voilà. Et donc, mathématiquement, ce modèle qui n'est pas réaliste a inscrit dans ses hypothèses que nécessairement tout complot sera révélé un jour. Donc c'est très problématique. Ensuite, Grimes, je pense, s'est rendu compte de ça, et donc il a proposé des modèles un peu plus sophistiqués, où il a dit, en fait, le nombre de personnes impliquées dans le complot diminue, et donc si on imagine que des complots peuvent rester à tout jamais cachée. C'est ça qui se produit, en fait. C'est que le nombre de personnes diminue, donc soit parce qu'on les tue, soit parce qu'elles décèdent naturellement. Et c'est là qu'il a fait une énorme erreur mathématique. C'est-à-dire qu'il a confondu ce qu'il aurait dû calculer. Je vais expliquer autrement. J'essaye de voir comment expliquer ça. Voilà comment il a fait son calcul, en fait. Donc vous allez comprendre l'erreur. Il a dit, supposons que ça diminue et que, par exemple, il y a 1000 personnes au début du complot impliquées, et puis au bout de 60 ans, il n'en reste que 10. Et il a fait le calcul pour 60 ans, comme si, en fait, il n'y avait que 10 personnes depuis le début. Donc, évidemment, plus il va loin, plus il trouve que la probabilité de suite est faible, ce qui se traduit dans sa figure 1 par le fait que, pour ces deux modèles, la probabilité qu'il y ait au moins une fuite au bout de n années, qui ne peut qu'augmenter mathématiquement, ça ne peut qu'augmenter. Et sur ses dessins, sur sa figure, ça descend. Et ça, c'est le fait de cette erreur mathématique. Donc c'est une grossière erreur mathématique. C'est un peu la honte pour Plus One, disons-le comme ça, d'avoir laissé passer un truc comme ça, parce que normalement, c'est relu par des experts. Et les experts sont censés quand même, au minimum, déceler des erreurs de mathématiques de ce niveau. Parce que c'est quand même pas... Voilà, c'est une erreur relativement simple quand même. Donc voilà, premier problème. Grimes avait prévu trois modèles. Un qui n'est pas réaliste et qui, par définition, conduit à dire que tous les complots seront révélés un jour, sans exception. Deux autres qui sont plus réalistes, sauf qu'à la suite d'une énorme erreur mathématique, ce qu'il a fait, ça ne correspond pas du tout à son modèle. Donc c'est absolument n'importe quoi, pour le dire simplement. Et dans la suite, il étudie uniquement le premier modèle. Donc déjà, on est mal parti, parce que le premier modèle, c'est le plus défavorable aux théoriciens du complot. Et c'est pas ça qu'on voulait. Nous, on voulait quelque chose de particulièrement favorable. Hein, vous vous souvenez que l'idée de départ, c'est on va faire un modèle qui est crédible, mais qui en même temps est très favorable aux théoriciens du complot, et on va montrer que même dans ce cas-là, eh bien, ce que disent les théoriciens du complot, ça tient pas debout, parce qu'en fait, la probabilité qu'un complot soit dévoilé est très élevée. Au lieu de ça, on a un modèle qui n'est pas trop mal fait, moyennement crédible, disons, mais qui est particulièrement défavorable aux théoriciens du complot. Donc déjà, ça commence pas bien. Et on peut rajouter en plus que dans ce modèle, donc, de toute manière, parce que c'est dans les hypothèses, il y aura nécessairement fuite pour tous les complots, un jour ou l'autre. Voilà où on en est. Alors c'est déjà pas terrible. Mais la suite n'est pas géniale non plus, parce que maintenant, il y a un truc qu'il faut faire pour savoir. Donc si on oublie le problème de l'infini, tout ça, bon, on peut dire c'est pas grave, on a quand même un modèle. Peut-être qu'il n'est pas valable au bout de 40 ans, mais disons qu'en 10 ans, il va être... En 10 ans, c'est crédible. On va dire, en 10 ans, s'il y a 1000 personnes impliquées dans un complot, eh bien, elles vont presque toutes vivre au moins 10 ans après le complot. Et donc, sur 10 ans, on peut voir ce qui se passe. On peut voir, est-ce que c'est probable que dans les 10 premières années, et puis on dit, bah, après, le modèle n'est pas valable, ok, mais... Est-ce que dans les 10 premières années, c'est probable qu'il y ait une fuite ou pas ? Donc voilà, on pourrait faire ça et puis se dire que finalement, on peut arriver à quelque chose. Sauf que pour voir, donc on s'intéresse dans ce cas plus à ce qui se passe au bout d'un temps presque infini, mais on s'intéresse à l'évolution dans les premières années de la probabilité de fuite. Voilà, est-ce que très vite... c'est presque sûr qu'il y a une fuite, ou est-ce qu'en fait ça monte très lentement et que c'est seulement au bout de 60-70 ans dans le modèle qu'il devrait y avoir une fuite, auquel cas peut-être qu'il faudrait changer de modèle. Alors pour le savoir, le problème c'est qu'il nous faut un paramètre, c'est le paramètre petit p dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire la probabilité qu'une personne particulière qui a participé au complot, pour une année particulière, dévoile le pot aux roses. Et donc il faut l'estimer ce p, parce qu'on ne le connaît pas, et ce qu'on fait dans ces cas-là, en statistique, c'est qu'on utilise des données réelles pour estimer la valeur de P. Et là, il y a un deuxième énorme problème, en fait même deux énormes problèmes, qui se posent à Grimes. Premier problème, c'est qu'il faut trouver donc des cas réels, historiques, c'est-à-dire des cas de complot qui ont finalement été dévoilés, et c'est ça qui nous permettra de trouver P. Et il en a trois. Il a seulement trois complots. Alors inutile de dire que quand on estime un paramètre comme ça avec seulement trois valeurs, il y a une énorme variabilité. On peut le faire, hein. Évidemment on peut le faire. Seulement, si on le fait sérieusement, quand on estime un paramètre, on ne va pas estimer juste une valeur, on ne va pas arriver avec une conclusion du genre bah, « P, ça fait à peu près 0,2 ». On arrive avec un intervalle de confiance. Par exemple, on pourrait dire, si on avait beaucoup plus de valeur, eh bien, d'après nos calculs, P, ça se trouve presque sûrement entre 0,1 et 0,3. Et évidemment, plus l'échantillon est petit, plus l'intervalle de confiance est large. Et là, en gros, bah, je ne sais pas, je n'ai pas fait les calculs ni rien, mais j'imagine que probablement on trouverait que la probabilité entre 0 et 100%, et c'est tout ce qu'on pourrait dire, parce que c'est tellement petit comme échantillon, 3, que vraisemblablement on ne trouvera rien. Et du coup, Grimes n'a pas utilisé cette méthode. Je vous dis juste après comment il a fait, mais d'abord un tout petit point un peu technique, sur la possibilité d'estimer le paramètre. Parce que le problème est le suivant. Nous avons trois exemples de complots réels qui ont tenu un certain temps, plus ou moins longtemps, et qui finalement ont été révélés. Donc on sait que dans ces trois cas, il y a eu un complot et finalement ils ont été révélés. Le problème, évidemment, c'est qu'on ne sait pas s'il n'y a pas eu d'autres complots, historiquement, dont on ne sait rien. Peut-être qu'il y en a eu 5000 autres, et que ces trois-là, c'est seulement les trois seuls parmi 5000 qui finalement ont été révélés. Ou bien peut-être qu'il n'y a jamais eu que ces trois-là dans toute l'histoire du XXe siècle et que les trois sont connus. Vous comprenez bien sûr que ça change complètement la donne et qu'on ne va pas estimer le paramètre de la même manière selon qu'on n'a que ces trois-là ou qu'il y en a 5000 et que ces trois-là, c'est les trois où ça a marché parmi 5000. Alors il pourrait sembler, puisqu'on ne sait pas combien de complots sont restés cachés, il pourrait sembler impossible du coup d'estimer P. Donc je ne vais pas vous donner les détails parce que ce serait pour le coup trop technique, mais en fait c'est possible quand même, en théorie, sauf qu'évidemment avec 3 ça va être super limité, mais avec un bon échantillon, disons, on peut quand même estimer P parce que P ça influe sur la vitesse d'augmentation de la probabilité, et donc on peut quand même regarder, mais avec 3 points vous imaginez, la vitesse d'augmentation, la pente de la courbe quand il n'y a que 3 points, évidemment, c'est très très aléatoire. Voilà, mais donc il y a des méthodes, hein. C'est pas impossible dans l'absolu d'estimer ce paramètre P à partir de données réelles. Mais comme je disais tout à l'heure, avec seulement 3 exemples, Grimes est pris au piège, il peut pas faire d'estimation, ou s'il essaye d'en faire, très probablement il va trouver un truc complètement ridicule du genre c'est compris entre 0 et 100%, qui n'a absolument aucun intérêt, donc, et qui permet de rien conclure du tout. Du coup, il est passé par autre chose qui sort de nulle part, complètement parachuté, et que honnêtement, ça fait quand même pas sérieux dans un article scientifique. C'est-à-dire que pour avoir une idée de la valeur de P, il déclare que P est forcément supérieur à une certaine valeur qu'il a calculée. Et comment il l'a calculée ? Il l'a calculée comme ça, en disant... Quand un complot est dévoilé, par exemple si un complot est dévoilé au bout de 40 ans, ça veut dire que la probabilité, a priori, qu'il soit dévoilé au bout de 40 ans est au moins de 50%. Autrement dit, il ne se passe jamais rien qui n'a pas au moins une chance sur deux de se produire. C'est une hypothèse complètement fumeuse, j'ai vu ça nulle part. Et bon, ça donne une équation. Et pour montrer de manière indirecte que l'équation est un peu absurde. Alors, ceux qui regardent l'article, vous pouvez regarder, c'est l'équation numéro 8. Si on applique cette inéquation, en réalité, si on applique cette inéquation au cas où un complot serait dévoilé au bout de 7 mois, eh bien, on arrive à la conclusion suivante. Dans ce cas, la probabilité qu'une personne donnée, pendant une année donnée, dévoile le complot est de 100%. Voilà, donc vous voyez qu'il y a quand même un problème, ça veut dire si dans toute l'histoire de l'humanité il y a eu un complot dévoilé au bout de 7 mois, on peut en conclure que tous les complotistes, chaque année, dévoilent tous les complots auxquels ils ont participé, ce qui n'est évidemment pas réaliste du tout. Donc ben, on n'a pas besoin d'aller vraiment plus loin que ça en fait, parce que si on regarde ce qu'on a depuis le début, on avait au départ 3 modèles annoncés. Le seul qui est correctement modélisé, donc voilà, correctement fait, c'est celui qui est le plus défavorable aux théoriciens du complot, donc ça va convaincre personne. Si on trouve que le cas le plus défavorable aux théoriciens du complot n'est pas favorable aux théoriciens du complot, c'est pas une preuve aussi géniale qu'on pourrait l'espérer. Et quant aux deux autres, à cause d'une énorme erreur statistique, ils n'ont aucun sens. Alors il nous reste ce modèle pas terrible, parce qu'il est défavorable aux théoriciens du complot, Mais quand on regarde comment le paramètre a été estimé, on arrive à la conclusion que c'est un peu n'importe quoi aussi. Et donc, même si on acceptait l'idée d'utiliser ce modèle, ce qui serait quand même étrange, eh ben la suite ne vaut pas grand-chose. Et voilà, donc un article finalement très décevant pour nous autres. Mais moi, enfin, j'étais quand même pas si déçu que ça, parce que ça m'a donné cette occasion que j'attendais depuis longtemps de pouvoir dénoncer quelque chose qui va dans le sens qui me convient. Voilà. J'aurais aimé que l'article soit vrai, mais il tient pas debout, et je le dis. Voilà. Et donc je mets à l'épreuve comme ça mon rationalisme, et j'étais encore une fois très heureux de voir que c'était la réaction la plus fréquente en fait à mon billet de blog sur cette question. Voilà, ça va être tout pour cette semaine. Je vais vous laisser, et comme on dit, sceptiquement vôtre, comme dirait Jean-Michel Abrassard.